Donc, dans le cadre de Féminin Pluriel de cette année, nous allons vous présenter Pluriel Féminin, parce que nous avons choisi de vous parler non pas de femmes hors du commun, dont le nom et l'histoire méritent d'être connus,
mais de collectifs de femmes hors du commun, dont le nom et l'histoire méritent d'être connus.
Cependant, dans ces collectifs émergent toujours une ou deux figures qui illustrent ce collectif, comme pour incarner, à travers une personnalité, un mouvement pourtant nourri et porté par plusieurs.
Nous voyagerons du 12e à aujourd'hui.
Les Béguines, fin 12e siècle.
Liège, Belgique.
Alors, c'est à partir de cette ville que naît un nouveau mouvement religieux, uniquement composé de femmes, appelées béguines, pour vivre leur foi autrement.
Elles vivent librement, seules ou en communauté, choisissent de rester chastes, pauvres, et de travailler dans un but uniquement caritatif, et de se consacrer à la prière.
Et tu sais d'où ça vient le mot béguine,
Luc ? Bien sûr. Ça vient du mot flamand « beg », qui signifie « murmurer »,« marmoronner », comme elles le faisaient en priant. Elles sont religieuses, mais sans avoir prononcé leurs vœux, restant laïques, hors d'atteinte de la hiérarchie ecclésiastique, et même affranchies de toute domination masculine.
Ah, affranchie de toute domination masculine. Alors, elle s'installe près d'une église, vivant dans des petites maisons individuelles, rassemblées pour mieux se protéger, s'entraider et surtout pratiquer leur dévotion. Ce regroupement de maisonnettes formant ce que l'on appelle un béguinage. Vous avez certainement dû en voir, c'est vraiment des très très beaux complexes architecturaux. Alors, à travers un mode de vie très souple, chaque béguinage édicte ses propres règles, toujours modifiables. Rien n'est imposé, ni l'habillement, ni l'habitat. Elles gardent leur patrimoine.
Elles gardent leur patronyme.
Et elles sont fortes quand même. Hein. Et elles peuvent quitter le béguinage à tout moment.
Le travail représente un moyen d'émancipation économique et assure leurs aumônes. Leurs activités sont très variées, allant de travaux de la ferme à ceux de la domesticité, en passant par le blanchissage des draps, le lavage de la laine et les travaux de dentelle, la fabrication de bougies aussi. Elles possèdent leurs propres ateliers de tissage, de poterie et de copies de livres. Les plus instruites se tournent vers l'enseignement et, grâce à la présence des infirmeries dans leur béguinage, elles acquièrent un savoir-faire médical.
Alors, on peut ainsi dire qu'elles furent les premières religieuses à vivre dans le monde.
Il n'y a pas de mère supérieure, juste une grande dame élue pour quelques années.
Eh bien, c'est une sorte de démocratie avant l'heure, non ?
Oui. Au début de ce 13e siècle, cette façon de vivre sa foi s'étend rapidement et principalement dans le nord de l'Europe, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne et le nord de la France, jusqu'à représenter plus de 200 000 béguines.
Oh, c'est quand même énorme hein, quand on voit le nombre de la population à l'époque. Hein.
Leur réputation est même parvenue jusqu'à la cour de France où Saint-Louis les fait venir en 1264 et leur procure de quoi s'installer à Paris en leur léguant une forte somme d'argent.
Ah oui. Alors, l'Église, au début, voit d'un bon œil ce mouvement religieux de piété, de charité, avec cette vie chaste et de pauvreté assumée. Par contre, il n'en est pas de même avec les ordres religieux, qui se sentent concurrencés et s'estiment dépossédés des donations et legs que les béguines reçoivent de familles nobles et bourgeoises. Il faut croire que la concurrence était rude, justement, à ce moment-là. De plus, ces ordres religieux se méfient des libertés acquises par ces femmes, comme la liberté religieuse, la liberté sociale, la liberté économique. et surtout une existence hors de toute règle monastique. Les libres circulations des beguines dans leurs activités économiques apportent des perturbations dans les hôpitaux ou dans les couvents, notamment masculins, mettant en danger, alors là c'est quand même assez terrible, hein, mettant en danger le vœu de chasteté des moines.
Des décrets religieux sont donc pris à leur encontre, leur interdisant d'aller dans ce lieu. Des méfiances apparaissent à leur égard concernant leurs actes de mendicité, habituellement réservés à ceux atteints d'invalidité physique, ce qui n'est pas leur cas, bien sûr.
On va vous livrer un témoignage d'un moine lors du Concile de Lyon en 1274, qui illustre fort bien cette méfiance.
Chez nous, des femmes qu'on nomme béguines, un certain nombre d'elles excellent en argutie et raffolent de nouveautés. Elles lisent la Bible en groupe, sans respect, d'une manière pleine d'audace, et cela en petite assemblée, dans des ateliers et même dans la rue.
Aïe, aïe, aïe. Alors, soupçonnés de fausse piété et d'hérésie, de la méfiance suivent les persécutions. Alors là, il faut évoquer Marguerite.
Marguerite.
Marguerite de Porrette. Elle naît vers 1250, probablement à Valenciennes, donc dans le nord de la France. Elle est restée dans l'histoire par la rédaction de son livre. Vous allez voir comme le titre est beau. Le miroir des simples âmes anéanties et qui seulement demeure en vouloir et en désir d'amour. C'est vraiment un magnifique titre. Mais il semblerait que les autorités religieuses n'aient pas été sensibles à cette beauté, parce qu'ils considèrent que c'est une démarche qui s'émancipe de l'Église, qui relativise les sacrements et qui rejette la morale. Mais pour Marguerite, c'est plutôt refuser l'idée d'un Dieu punisseur, tel que le clergé le présente à l'époque. Et Marguerite veut révéler un Dieu amour.
Ce livre est déclaré hérétique.
Mais Marguerite, elle a sa foi. Elle est têtue. Elle persiste. Elle diffuse son ouvrage.
Le clergé, à la suite d'un procès, la condamne comme hérétique, à être brûlée vive. Et c'est chose faite en 1310 à Paris, place de Grève.
Oui, l'Église prenait pas tellement de gants à l'époque.
Hein. Bon, nettoyage par le feu, ça a toujours été...
oui, d'accord. Radical, c'est sûr. Alors, les béguines continuent quand même de vivre au fil des siècles, mais elles disparaissent quand même en Flandre notamment, où elles se rapprochent de l'Église. Hein. Certains béguinages fonctionnant alors comme des paroisses. Et c'est au XIXe siècle, ce mouvement béguinal devient de plus en plus ténu jusqu'à disparaître.
La dernière béguine s'éteint, il n'y a pas si longtemps, le 14 avril 2013, à Courtrai, en Belgique.
Aujourd'hui, évidemment, il subsiste les béguinages, magnifiques complexes architecturaux qui, rénovés, offrent un cadre adapté aux personnes âgées. Mais nous y reviendrons un peu plus tard. Les suffragettes.
1867.
Royaume-Uni.
La première organisation britannique à faire campagne en faveur du droit de vote des femmes est la Société nationale pour le droit de vote des femmes. Fondement d'un mouvement suffragiste.
30 ans plus tard, donc en 1897, se crée l'Union nationale des sociétés de droit de vote des femmes, en espérant y parvenir par des moyens pacifistes avec l'argument que les femmes devant obéir aux lois devraient avoir le droit de participer à leur élaboration. Bon, cela nous paraît évident aujourd'hui, mais il semblerait qu'il n'y a pas si longtemps, ça soit difficile à considérer ce genre de pratique législative, on va dire.
Bon, la société britannique est toujours progressiste. 5 années plus tard est créé un nouveau mouvement, l'Union politique et sociale des femmes, et par Emmeline Pankhurst. Et c'est alors que...
Les suffragettes entrent en scène, se différenciant des suffragistes. On a trouvé que c'était un petit peu compliqué. Hein. Il y a beaucoup de mouvements qui se ressemblent, mais qui sont distincts aussi entre eux.
Voilà, mais quand on aime, on complique. Hein. Donc...
Tu nous expliques, Luc, oui. Entre suffragistes, suffragettes...
Les suffragistes, le suffragisme, on pourrait dire, les suffragistes, c'est un mouvement d'esprit qui traverse la société britannique en cette fin du 19e siècle. Les suffragettes, ce sont surtout des femmes qui passent à l'action. Voilà. Il y a un mouvement d'idées, il y a une action qui suit ce mouvement d'idées. Les suffragistes, c'est les idées. Les suffragettes, c'est l'action. On va voir ça tout de suite.
Et d'ailleurs, pourquoi on les appelle suffragettes ?
Ah, c'est la presse qui, en mettant un suffixe « et » après suffrage, voulait un peu les ridiculiser.
Donc, Luc, tu as raison de dire qu'effectivement, ce courant de pensée est véritablement dans la société civile, parce qu'on note qu'en juin 1908... 500 000 personnes se sont rassemblées à Londres pour exiger le droit de vote pour les femmes. Donc c'était quand même dans la conscience de cette situation.
Mais les principaux parlementaires y restent indifférents. Et les suffragettes décident alors de durcir leur action.
On voit comme ça à quel point parfois la société civile est plus en avance sur nos dirigeants. Hein. Enfin bon, je ferme la parenthèse. Donc, justement, elle décide de passer à l'action et en 1909, donc juste dans la foulée de cette grande manifestation, elles entament une grève de la faim. Et les autorités les obligent à s'alimenter de force par le nez et par la bouche. Alors, c'est horrible, hein, j'ai vu des photos. Les pauvres femmes sont immobilisées par des gros bras autour d'elles. Et on leur ouvre la bouche comme ça de force. Ça fait penser un petit peu au gavage de nos chers petits canards hein, de la région. Bref, c'est si cruel que cette façon de faire entraîne une condamnation, évidemment, de la part des suffragistes, mais également du corps médical. Leur slogan, justement, « des actes, pas des mots », illustre leur mode d'action fondé sur la provocation. Et cette façon de faire va rompre avec la bienséance qui subsistait effectivement dans le milieu suffragiste britannique à ce moment-là. Et bien même la provocation, ça ne suffit pas. Alors les suffragettes se retournent vers des actions encore plus violentes pour attirer l'attention sur leur cause. Certains historiens qualifient leurs actes relevant du terrorisme. C'est facile aussi hein, le qualificatif de terrorisme. Hein. Ça permet aussi de mettre une distance à ce qu'on essaye de défendre. Mais d'autres historiens préfèrent le terme de vandalisme, parce que effectivement, tout de même, ces femmes, elles prennent soin à ce que leur cible soit vide de tout occupant. Donc s'il y a eu des dégâts, ce ne sont que des dégâts matériels. Enfin, elles n'y vont pas de main morte quand même, hein, les filles là, hein, parce qu'elles n'hésitent pas à faire l'usage de la bombe en des lieux touristiques. Comme la Tour de Londres, l'abbaye de Westminster, la cathédrale Saint-Paul, la Banque d'Angleterre, le British Museum, la National Gallery. Rien ne leur échappe, hein, mais visiblement, pas de victimes humaines. On a même relevé qu'en 6 mois de l'année 1913, il y a eu plus de 250 actions par destruction et incendie. Fallait avoir vraiment... La foi chevillée au corps, si je peux dire, pour défendre justement cette revendication d'avoir le droit de vote.
Ce mouvement pour le droit de vote des femmes était constitué de différents courants. Et évidemment, décision de ce mouvement, la Ligue pour la liberté des femmes choisit d'utiliser des actions non violentes comme refuser de payer l'impôt ou s'enchaîner aux grilles du Parlement. Mais ce sont des actions tout aussi spectaculaires. Elles se reconnaissent dans ce combat comme pour ce combat commun pour l'obtention du droit de vote, mais elles sont divisées sur la façon de l'obtenir.
On arrive à l'année 1914. La Première Guerre mondiale met fin comme ça à ce militantisme intérieur à la société britannique. Et les suffragettes s'engagent donc dans ce nouveau combat mondial. En période de guerre, l'Union nationale met les divergences internes sous le boisseau.
À la fin de la guerre, le fruit est mûr. Ça sera donc en 1918 que les femmes britanniques obtiendront le droit de voter. À partir de 30 ans, tout de même, faut pas exagérer. Alors que les hommes pouvaient déjà voter à partir de 21 ans.
Oui, bon, on note. Et alors, il faudra attendre 10 ans. 10 ans pour obtenir l'égalité. Donc en 1928, et la loi donc fixera à 21 ans l'âge, aussi bien pour les femmes que pour les hommes, pour aller voter.
Il faut évoquer à présent la figure majeure de ce mouvement des suffragettes, qu'est Emmeline Pankhurst.
1858-1928, née à Manchester.
Issue d'un milieu politisé et cultivé, sa maison, avec son époux et sa sœur, accueille à Londres nombre d'intellectuels, de militants politiques, socialistes, anarchistes, suffragistes bien sûr, libres penseurs, radicaux, humanistes. Suite au décès de son mari, en 1898, elle retourne à Manchester et trouve un emploi administratif qui lui renforce sa conviction que seul le droit de vote des femmes permettra d'améliorer leur sort. C'est donc en 1903 qu'elle crée ce mouvement appelé suffragette. Elle sera souvent arrêtée et lors d'un de ses procès, elle déclarera:
nous sommes ici non pas parce que nous avons violé la loi. Nous sommes ici par notre volonté de faire la loi.
Sa contribution tout au long du XXe siècle est reconnue pour son rôle déterminant dans l'obtention du droit de vote des femmes. Même si de nombreuses critiques s'élèvent contre ses méthodes,
mais qui échappe à la critique quand il est question de faire changer les choses, hein?
Merci beaucoup Marthe et Luc. Ce que je vous propose, c'est de nous retrouver pour un second temps avec d'autres collectifs de femmes hors du commun. À bientôt.